Polyplaisir des Utopies, deuxième émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. Avant d'accueillir mes deux invités, un petit mot sur les retours de la première émission, Retrouver la poésie du corps en osant y mouiller l'encre, cette belle entrevue avec Christian. Vous avez été 350 à l'écouter sur docmusic.net et à peu près 200 sur polyamour.be. C'est encourageant, merci. J'ai bien noté aussi vos remarques, vos propositions pour la suite. Alors peut-être un jour un débat à plusieurs autour d'une table ronde. On en reparle plus tard. À l'ombre du jour, le micro entre les dents. Le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. C'est Clémentine que je reçois ce soir pour parler de polyamour précisément. Elle l'a expérimenté depuis plusieurs années à sa façon, avec cette idée de transparence et de respect. C'est à l'âge de 15 ans que ce mode de mise en relation a commencé à trouver sens pour elle. Et depuis, à travers plusieurs recherches documentaires sur l'autonomie des femmes, elle nous offre sa parole. J'invite les gens à passer au troisième millénaire, y compris dans leur vie privée. Nous sommes ensemble pour 1h50 de radio, divisée en deux parties pour vous permettre plus de souplesse d'écoute. Tout le long du programme, je vous emmènerai à la découverte de plusieurs créations musicales libres de droit, toutes issues de la plateforme docmusic.net, où vous pouvez aussi retrouver cette émission en téléchargement. Dans une trentaine de minutes, un des compagnons de Clémentine nous rejoindra pour nous donner, à travers ses impressions, sa vision du polyamour. Comment il le vit au quotidien, comment il croit aussi que 1 plus 1 fait plus que 2. C'est donc avec un bonheur à peine camouflé que je vous invite à l'écoute de cet enregistrement du 8 décembre à Bruxelles. On parlait de l'idée de la propriété, voilà, premier petit thème. C'est un mot qui enferme un tas de choses, un tas de concepts, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Mais effectivement, la propriété, elle s'attache de façon assez classique à des choses. Donc on est propriétaire de sa voiture ou de sa maison. On peut aussi directement en face lui mettre le mot d'écologie, puisque finalement notre mode de vie où chacun est propriétaire de ses biens induit des catastrophes écologiques. C'est une platitude maintenant de le dire. Et en termes d'écologie relationnelle, si on peut oser ce mot-là, finalement partir avec l'idée que l'autre est sa propriété, je pense que aussi on peut aller vers des catastrophes écologiques. Cela dit, on arrive d'un système de pensée qui est fondé sur l'esclavage, hein, la fameuse démocratie grecque concernait à peu près un tiers de la population puisque on évacuait les femmes et les esclaves.
Il fallait être citoyen, hein, d'Athènes.
Et la citoyenneté n'était donc pas ouverte ni aux femmes ni aux esclaves. Ça s'est finalement prolongé assez longtemps. Il y avait moyen d'être propriétaire de personnes pendant encore jusqu'à l'âge classique. Jusqu'au code Napoléon qui est toujours en vigueur dans un certain nombre de pays où platement, il est dit la femme est un arbre fruitier et son époux est un jardinier qui est propriétaire et de l'arbre et des fruits. On a finalement un cadre législatif qui renforce aussi une donne sociale. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que on a quand même assez souvent affaire à des jardiniers fugueurs qui laissent en plan et l'arbre et ses fruits. Sur l'idée de la propriété, on a effectivement des changements de nom, on a tout un arsenal législatif qui a changé, mais où une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, ne pouvait pas non plus postuler à un emploi sans l'accord du même mari. Et où finalement les veuves avaient un statut très à part. Et même ici en Belgique, on a imaginé de faire voter pour leur mari les femmes, les veuves de guerre. Parce que si finalement, alors la citoyenneté est-elle sexuellement transmissible après la mort le débat est ouvert. Bah, puisqu'il s'agit, oui, il s'agissait de les faire exprimer soi-disant la voix de leur mari. Dans mon vécu, j'ai assez rapidement expérimenté une ambiguïté par rapport à l'impératif d'une relation exclusive. Alors sans doute mes parents m'ont-ils aidé, puisqu'ils ont eu des moments où ils n'étaient clairement plus monogames et ils n'ont pas divorcé pour autant. Donc je me souviens d'être allée en vacances avec mon père et une dame, ou ma mère et un monsieur, sans qu'il y ait de garde alternée ou quoi. Enfin, le mariage a jamais été rompu, ils ont toujours vécu ensemble. Cela dit, pour eux, ça s'est pas toujours très bien passé finalement. C'était peut-être trop dur à vivre ou quoi, mais ils sont revenus dans des corps de plus monogames. Et assez rapidement, dans mes premiers émois amoureux, je me suis retrouvée à mener de front deux relations. Et le vivre finalement assez ouvertement. Je me souviens la première fois que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans l'après-midi finalement, de démarrer comme ça quelque chose, enfin, est-ce que c'était démarré, en tout cas il y a eu de la sensualité entre nous, que j'ai complètement accepté sans remords ni regrets, sans me poser d'autres questions que l'envie de vivre ce qu'il y avait à vivre à ce moment-là. J'avais donc 15 ans à l'époque. Et le soir, j'ai vu mon copain officiel et à qui j'ai dit ce qui s'était passé. Et il a eu une première réaction qui était de me dire « Tu étais ma déesse et tu es tombée de ton piédestal. » Ça m'a un peu fait ni chaud ni froid, je dois avouer. Et puis le lendemain, il avait manifestement dormi sur le truc et il se disait que finalement c'était assez pratique. Il a embrayé comme ça. À la fin de cette relation-là, il y a eu 2 ans qui ont été un peu plus difficiles pour moi, sans doute. J'ai dû essayer de rentrer dans la norme, mais ça n'a pas très bien marché. J'ai eu le bonheur et le plaisir d'être entre guillemets trompée, soit j'avais affaire à quelqu'un qui était pathologiquement jaloux et qui était persuadé que pour le coup je le trompais. Ce qui s'est pas produit en plus, qui est un peu le côté risible de la jalousie. Et puis, arrivé à la fac, il y a une femme professeure qui avait laissé son fonds de bibliothèque à la bibliothèque universitaire, avec comme contrat de continuer sa tentative, qui était donc de constituer un fonds de livres sur la femme ou écrits par des femmes. Et là, j'ai commencé à accéder à un certain nombre d'écrits, notamment quelqu'un comme Lucie Rigaraille sur le langage. Et finalement, tout le détricotage féministe sur l'éternelle propriété de la femme par l'homme qui a mis la main dessus, que ce soit son père, son mari ou n'importe quel tuteur masculin mieux reconnu qu'elle par la loi. Ça peut être y compris un fils qui a 6 ans ou un oncle qui en a 90. Et l'année d'après, mon féminisme se radicalisant, j'ai été amenée à rencontrer la Fédération anarchiste et aussi à rencontrer une pensée qui existe depuis le début du 19e siècle, notamment dans les milieux ouvriers, où les femmes avaient justement ce statut assez particulier d'arbre fruitier délaissé par un jardinier fugueur, et où l'idée des femmes qui ont, je pense à Jeanne Hubert, Humbert, je pense à d'autres femmes comme Emma Goldman. Oui. L'idée, c'était finalement rentrer dans des liens de propriété par le mariage avec un homme ne va m'apporter que des emmerdes.
C'est ça.
On pense aussi à Flora Tristan, que son mari a essayé de tuer dans la rue à coups de pistolet sans qu'elle puisse jamais s'en défaire, puisque le divorce était interdit. C'est aussi des circonstances assez terribles. Et c'est une pensée qui me semblait intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on en arrive à se dire moi, ma maison ne m'appartient que parce que je l'habite. Je contribue à posséder collectivement un outil de travail parce que j'y contribue moi aussi et que j'en décide. On arrive à avoir des idées assez éclairées sur la nationalité, sur l'intégration, le multiculturalisme. Et finalement, il y a le couple qui reste un espèce de noyau d'archaïsme. Quelque part, j'ai parfois eu le sentiment que les gauchistes les plus radicaux en termes économiques ou anti-étatiques étaient parfois aussi les plus conservateurs en matière de relations sentimentales. Dans les groupes militants, il y a aussi un marquage qui est assez marrant, qui est qu'il est très mal vu quand on est de gauche d'aller coucher avec quelqu'un de droite. C'est assez marrant comme ça, mais il y a une espèce de propriété collective des femelles. Il s'agit qu'elles ne se trompent pas de cheptel et chacun a les siennes. C'est assez étonnant. Et finalement, on retrouve une idée aussi assez archaïque du rap des femelles qu'on trouve dans le rap. C'est-à-dire qu'on va aller convoiter la femme du flic, ou la femme du politique, ou la femme du type qui est riche. Par contre, on sanctifie sa propre mère. Une espèce de récupération sur le tas aussi. C'est une petite digression. Donc mon idée aussi, c'était, parce que je suis quelqu'un de finalement assez exigeant, de pas devoir déjà résoudre une espèce de quadrature du cercle entre ce qu'il est vraiment insupportable pour moi de ne pas avoir satisfait dans ce qu'il n'est pas possible pour l'autre de donner. Et finalement, c'est assez complexe parce que on peut être vraiment dans un échange d'amour très important, authentique, sincère, vraiment quelque chose d'indéniable, et en même temps être dans une totale insatisfaction dans l'érotisme commun, dans les pratiques communes, les intérêts communs. Et pour moi, le polyamorie, ça me permet ça aussi, d'accéder à des compagnons qui sont très insatisfaisants, en les ayant à temps partiel, et du coup, ça passe mieux. Ils sont pas, je leur jette pas à la tête mes insatisfactions, et du coup, j'arrive mieux à me satisfaire de ce qu'ils sont en capacité d'apporter, sans justement quelque part m'approprier leur être en devenir, leur demander de s'aliéner pour me plaire.
C'est des mots qu'on entend, ça, que j'ai pu lire aussi dans certains ouvrages, donc aliénation pour la femme mariée qui s'engage à long terme en monogamie. À un moment donné, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surpris, et en même temps, aujourd'hui, je le comprends, je peux le comprendre vraiment. Enfin, j'ai l'impression, mais donc c'est un mot que je relève comme ça un peu. On est bien dans cette idée d'aliénation, mais ça veut dire que donc tout est à faire, ou alors toi tu as l'impression, parce que tu parlais du début du siècle dernier, il y a quelques bases qui ont été posées par des femmes, des repères. Et alors, il y a eu les deux guerres où je pense que les femmes ont eu un rôle inattendu. Elles ont dû investir des usines parce qu'il n'y avait plus d'hommes et qu'il fallait fabriquer des obus, fabriquer un tas de choses. Je pense qu'en effet, après les guerres, il y a une place qui leur était due, qui est revenue un petit peu à la femme, mais en même temps, je pense que l'homme a dû accepter un petit peu. Mais donc tout ça, c'est des évolutions qui ont amené à quoi, en fait, aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que c'est qu'il y a une partie qui est gagnée? Est-ce que le combat reste un combat qui doit se mener dans des micro-résistances, dans les couples, précisément? Ou est-ce qu'il faut... Enfin, il y a plein de questions, en fait, mais bon... Alors, par ton vécu, moi, j'ai l'impression que tu as déjà compris des choses assez, assez essentielles.
Il y a ce qu'on appelle l'année zéro du féminisme, qui est le fameux MLF, les années 70. Ouais. Il n'en est rien, des mouvements féministes, il y en a eu tout un tas. La Révolution française, et on l'oublie, a été soutenue par des clubs de femmes qui se réunissaient pour parler politique. On parle aussi d'Olympe de Gouges, qui a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a été décapitée aussi parce qu'elle avait malencontreusement... pas dit assez de mal de Louis XVI, mais je pense que ces idées gênaient également. Entre les deux guerres, il y a le mouvement des garçons, donc aussi s'affranchir d'une certaine féminité. Il y a l'arrivée du vélo, qui permet aux femmes de porter un pantalon sans être emprisonnées pour cela. Donc un certain nombre de femmes se baladent à pied à côté d'un vélo, mais en pantalon.
C'est l'accessoire qui permettait quelque chose en plus.
Jusqu'à l'apparition du vélo et à sa validation par la faculté de médecine comme une activité saine pour les femmes, s'habiller en homme est passible de la peine de mort. Donc on est dans une grande transgression des genres qui est absolument insupportable socialement. Il y a tout un tas de témoignages d'hommes dont on s'est aperçu à la fin de leur vie, une fois qu'ils étaient morts, que c'était une femme, y compris des hommes mariés. Donc on se demande un peu comment le mariage a été consommé au passage, mais ils ont dû trouver un arrangement, et parfois à la plus grande stupéfaction de la femme. Donc là aussi, on retombe dans une sensualité qui se vit à travers une chemise de nuit trouée, ce genre de choses. Puisqu'elle est censée être à but exclusivement reproductif. J'imagine que ça laisse la place à un certain nombre de supercheries, je sais pas. Effectivement, les femmes arrivent visiblement aux premières lignes au travail, mais les femmes ont toujours travaillé. Simplement, c'est pas vu, c'est pas perçu. Elles travaillent autant que les hommes pour un salaire moindre. Parfois, des tâches... je ne sais pas si on peut parler de pénibilité, parce que bon, effectivement, il y a la mine, il y a un genre de choses, mais il y avait des femmes en bas dans les mines qui étaient torse nu au milieu des hommes, puisqu'il fait une chaleur de four, et que ça émeuvait énormément les bons penseurs catholiques d'avoir ces femmes dénudées au milieu des hommes. Pour autant, elles y sont restées. Donc une visibilité accrue des femmes, mais aussi parce que on leur demande de supporter l'effort de guerre. Il faut savoir qu'en 14 la guerre est déclarée en août, ça veut dire que les femmes ont fait les récoltes toutes seules, et donc elles en ont été capables. C'est au retour de la Seconde Guerre mondiale, au contraire, c'est un espèce de backlash, mais je pense que les gens avaient très envie d'effacer la guerre et de retourner à la normalité. Il y a quand même une différence de taille après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en France, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Et ça a été arraché mais vraiment de justesse par De Gaulle, par décret, pendant le gouvernement provisoire. Il n'était pas question de faire voter les hommes là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui s'est produit in extremis. Et en 1949, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe. Donc cette œuvre lui a valu des tombereaux d'injures. On a dit à ses collaborateurs, je sais maintenant tout sur le vagin de votre patronne. Enfin, c'était un florilège. Il y a énormément qui a été écrit là-dessus. Si les gens veulent s'y intéresser, c'est assez édifiant.
Oui, j'ai cru comprendre que c'était aussi Le deuxième sexe par la relation avec Sartre. Déjà dans l'ouverture du couple, qui a eu une nourriture, qui a eu quelque chose qui a pu préparer.
Simone de Beauvoir est un être très précoce et qui n'a pas attendu Sartre, notamment pour être très consciente de sa valeur. Et ce qui l'a sauvée, plus que Sartre, c'est la précarité économique de son père, qui n'était pas en capacité de leur faire un beau mariage, qui n'était pas assez riche pour leur donner une dot, et qui leur a dit il faudra travailler et vous ne pourrez compter que sur vous. Et je pense que dans l'imaginaire d'une petite fille, la différence entre sois belle et on va te trouver un mari, et puis il faudra vous débrouiller par vous-même et vous devrez travailler, je crois que ça, il y a un pont qui va se produire à la fin entre ces, enfin un pont, je dirais, il y a vraiment une différence. Enfin, ça produit des effets vraiment très différents sur l'imaginaire et la capacité de se projeter comme femme dépendante ou indépendante, justement. Ce qui marque souvent les esprits, c'est donc mai 68. Alors en France, ça commence par la révolte des étudiants qui souhaitent, et notamment il semble que les étudiantes aient souhaité laisser aux garçons l'accès à leur chambre pendant la nuit, ce qui était interdit donc sur le campus de Nanterre. Et donc mai 68 commence là-dessus. On a beaucoup parlé de libération sexuelle. A posteriori, je me demande si c'était pas plus quelque chose de l'ordre de la libéralisation de l'accès au corps des filles par les garçons. C'est ma thèse et mon hypothèse. Je peux la défendre et je peux entendre que d'autres n'en croient pas un mot. En tout cas, le mouvement féministe en France démarre plutôt en 72, pendant l'été. Il se passe rien de spécial. Il y a l'une des filles de la bande qui a des contacts dans les médias. Et donc, sous le regard complaisant des journalistes qui se font une joie de couvrir l'événement, elles vont poser une couronne de fleurs à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. À partir de là, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, et justement sur l'autodétermination, c'est-à-dire je n'appartiens plus à mon mari, mais comment je fais pour m'appartenir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je fais pour tenir toute seule debout ? Entre l'envie que j'en ai et l'inconfort social et normatif que ça suppose, puisque finalement il faut aussi arriver au quotidien à le gérer. On a beaucoup, souvent j'entends dans les banlieues, on dit le féminisme c'est pas occupé de nous ou quoi. Je pense qu'il faut pas confondre, le féminisme n'est pas un service public. Ça appartient à toute femme qui à un moment dit je et commence à finalement développer une théorie à partir de ce je. Et effectivement, le féministe des années 70 est massivement un féminisme blanc, hétérosexuel, bourgeois, occidental. Très clairement, il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, sur le fait que c'était d'un hétérosexuel, enfin, une hétérosexualité crasse, que on parlait jamais des problèmes des femmes noires, ou des lesbiennes, ou des ouvrières, ou très peu. Je pense que c'est un mouvement qui représente les femmes, effectivement, qui l'ont créé et qui n'avait pas d'autre but que celui-là, que de se représenter elles-mêmes, et c'était déjà en soi une gageure. Donc j'invite toute personne se sentant féministe, toute femme se sentant féministe, à l'être en tant que telle et à pas attendre qu'on vienne la chercher, puisqu'en tout cas, en 72, elles n'ont pas attendu qu'on vienne les chercher.
Michel Onfray qui est venu chez nous à Binche là, il y a 6 mois. J'allais l'écouter sur l'hédonisme. Et qu'est-ce qui fait qu'un philosophe peut se décrire comme ça, hédoniste? Et donc lui, en 10 points, il a tenu 1000 personnes en haleine. Et un des points était... donc lui considère que c'est tout à fait opportun de se définir féministe comme, en tant que philosophe. Aujourd'hui, pour être dans le progrès social, pour être dans une réflexion un peu où il y a peut-être une prise sur les enjeux d'aujourd'hui. Enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses, par exemple, quelqu'un qui s'affiche un peu comme ça?
Je pense qu'il y a à peu près autant de féministes que de féminisme. Enfin, autant de féminisme que de féministes. Si on commence à débattre des termes et de la définition,
oui, c'est
assez complexe. Après, de la part de, effectivement, d'un philosophe qui remet au goût du jour l'hédonisme, ça n'a pas grand-chose de surprenant. Et pour moi, c'est presque une suite logique. C'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué de se dire « tout va bien pour moi, je suis vraiment peinard » pendant que j'ai Bobonne qui trime autour. C'était aussi l'équation que beaucoup d'hommes n'ont jamais compris, c'est que si je passe la soirée à me reposer dans mon fauteuil en menant une trajectoire assez audacieuse qui va du fauteuil du salon à la table de la cuisine et retour au fauteuil du salon pour finalement aboutir dans mon lit, la femme qui a fait le satellite autour de moi en faisant 4 heures de tâches ménagères est beaucoup moins fraîche et dispose que moi pour ensuite avoir des relations sexuelles. Comme c'est étrange. Donc effectivement, si j'envisage de rendre cette femme plus sexuellement disponible, et les études prouvent que une femme se déclare plus satisfaite des performances sexuelles de son mari s'il l'aide dans les tâches ménagères, ce qui a priori n'a rien à voir, mais manifestement si. Donc je pense qu'effectivement, si on veut être un tantinet logique, alors oui, on va se déclarer féministe, j'imagine, dans le sens où j'ai en face de moi un être qui est exactement, en tout cas, mon égal ou sinon dans une forme d'équité, et qui n'est pas, on en revient, ma propriété, mon esclave, qui va faire à ma place les tâches d'entretien domestique des choses, des gens, du réseau social aussi. On est aussi dans une vision de la répartition du travail social de genre, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui produit de l'argent par le travail et du sperme et qui laisse à sa femme la charge de transformer et cet argent et ce sperme en une belle maison qui est bien tenue, qui va aussi témoigner de la santé mentale de la famille et des enfants qui vont aussi témoigner de la vitalité du couple et faire la fierté de leur père à travers leur réussite sociale eux-mêmes. Donc on est dans quelque chose comme ça. Et puis on assiste effectivement avec les premières générations de divorce à quelque chose qui valide cette hypothèse, puisque il y a tout un tas de premiers pères divorcés qui estimaient que s'ils avaient plus accès sexuellement à leur femme, eh bien, ils n'avaient pas à avoir accès à leur argent et ils se désintéressaient complètement de ses enfants. Il y a eu quand même des générations d'enfants sacrifiés sur l'autel de cette pensée-là et de ce réflexe-là. Et où on a... en contrepartie, assister à ce début de génération de femmes qui, entre guillemets, fait des enfants toutes seules. Et qui se sont retrouvées, finalement, à être mères sans plus être femmes. Et finalement, pour moi, l'intérêt aujourd'hui du polyamorie, c'est de s'affranchir au départ du handicap de la représentation patriarcale traditionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne serai la femme de personne. Je ne souhaite pas donner là-dedans. Et je sens bien que, quelque part, les gens attendent doucement que je me normatise. Maintenant j'ai 33 ans, donc ils commencent un peu à désespérer. Mais pendant longtemps, c'était moi, les jeunes, voilà. Donc là, après, effectivement, la question des enfants reste ouverte. Là aussi, on tombe sur, finalement, la propriété. C'est-à-dire, est-ce que je veux des enfants qui seraient à moi parce que ils ont mes gènes ou parce que j'ai collé mon nom dessus en les adoptant? Est-ce que aussi on pourrait pas rentrer au niveau de l'éducation des enfants dans le troisième millénaire en ayant une vision moins propriétaire des enfants? Et notamment, je pense à tous ces enfants qui sont seuls en permanence face à leurs parents puisqu'ils sont enfants uniques. Et je me dis que c'est dégueulasse de jouer à deux contre un. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu unique. Enfin, moi, je suis une fausse fille unique. C'est-à-dire, j'ai une grande sœur, mais qui est beaucoup plus âgée que moi. Et très souvent, je me suis trouvée vraiment très seule et j'aurais vraiment aimé être moins seule. Et face à mes parents, face à ce qu'ils étaient en train de faire, face à la toute-puissance qu'ils avaient sur moi, face à ce que leur névrose leur dictait de faire et qui décidait de ma vie quotidienne et de la sérénité de ma vie quotidienne. Donc finalement, dans un contexte aussi où les violences sont plus dites, c'est-à-dire que ça a commencé aussi sur la dénonciation des violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques mais aussi psychologiques. On en est arrivé à la violence faite aux femmes tout court, c'est-à-dire finalement il y a des oppressions de femmes par des femmes, que ce soit par des femmes plus vieilles sur des femmes plus jeunes. On peut aussi se poser la question des violences sur les personnes âgées, parce que si quelqu'un a été un tyran autoritaire toute sa vie, quant au moment où il est vulnérable et grabataire dans son lit, est-ce que c'est... en tout cas, il y a une forme de logique dans le fait que les personnes qui s'occupent de lui et qui tout d'un coup ont la toute-puissance sur lui se mettent à avoir des comportements violents et des comportements violents, une espèce de monnaie de sa pièce juste avant de mourir. Cela dit, effectivement, d'un point de vue normalement éthique, il n'y a pas de violence à avoir sur des personnes en situation de vulnérabilité. Finalement, pour moi, le polyamoury a aussi une façon de se faire neutraliser les hommes entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui peut prendre trop de place et non plus aucun qui peut vraiment avoir des crises de possessivité qui se traduisent en actes vraiment. Et mon corps est scruté avec beaucoup d'attention et je suis priée d'expliquer chaque bleu, chaque marque. Et quelque part, je trouve ça assez confortable d'avoir le sentiment de ne pas être dans un face-à-face et qu'il y ait une espèce de vigilance collective, en fait.
C'est ça.
Certainement, je suis une femme qui est beaucoup dans la séduction et qui n'a pas trop froid aux yeux, donc je vais en général à la rencontre de mes partenaires. C'est vrai aussi que j'aime beaucoup la séduction, le rapport de séduction, le flirt, et c'est sans doute aussi pour ça que je m'autorise à être polyamoury. Ce qui aussi chez moi valide un sentiment de sécurité, c'est que en sachant que mes amoureux ont d'autres partenaires, pour moi il est plus évident de les croire quand ils me disent qu'ils m'aiment et quand ils sont avec moi. C'est-à-dire que je sais que quelque part ils l'ont vraiment choisi. Et qu'ils ne sont pas avec moi pour ne pas être seuls, pour paraphraser la chanson, et qu'il y a vraiment quelque chose à ce moment-là. Pour moi, ça, c'est aussi de l'ordre de la qualité relationnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas en couple par habitude, et on n'est pas avec une personne parce qu'on n'ose pas la quitter pour ne pas être seul. Pour moi, c'est vraiment important.
Et justement, à ce niveau-là... Il y a un tas de petites notions comme ça, j'ai l'impression, dans le polyamour, qui amènent les acteurs du projet polyamoureux, je pense, à avoir d'autres petits réflexes. Donc tu parles de se dire au revoir. J'ai lu ça, mais je l'ai confirmé aussi dans la façon de vivre un polyamour. C'était apparemment, donc l'idée de se dire au revoir apparemment a de l'importance aussi, peut-être avec l'idée de mettre une qualité dans le temps et de prendre le temps de quitter quelqu'un. Quand on est peut-être dans des relations polyamoureuses ou ouvertes ou amour multiple. Enfin, est-ce que tu confirmes ça par exemple aussi enfin, donc nous accueillons le compagnon de Clémentine.
Est-ce que tu as un pseudo?
Non, non, ça va très bien.
D'accord. Tu te présentes un petit peu, mais voilà, c'est une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que toi, tu pourrais confirmer que... Je m'approche un peu du micro.
Dans le revoir, dans quel moment
Donc, à un moment donné, tu passes du temps avec Clémentine, et puis après quelques heures, quelques jours, tu la quittes. Est-ce que tu as l'impression... Ou est-ce que tu peux confirmer que le moment du au revoir va être un moment important?
Il y a plusieurs partenaires, donc il y a une répartition du temps qui est entre tout le monde. Il peut y avoir des périodes où on se voit pas, qui peuvent durer parfois 3, 4, 5 jours, une semaine. Donc peut-être qu'au moment de le revoir, il y a toujours un moment, quand est-ce qu'on se revoit, qui est peut-être moins présent dans une relation
qui amènerait une certaine
monogame
tension
classique.
Ou quelque chose comme ça, on peut parler.
Non, non, qui amène peut-être une envie de revoir la personne, une envie de savoir quand ça va revenir, et simplement, on est aussi peut-être dans la séduction, essayer de récupérer un petit peu de temps, de toujours... vouloir revoir la personne.
Comme s'il y avait un surplus de vivacité, un peu comme ça.
Oui, ben on reste peut-être plus dans la séduction pour toujours garder la flamme au fur et à mesure de la relation et pas finalement à un moment s'endormir sur ses lauriers. Ben voilà, on a une relation qui dure depuis 2 ans avec la même personne et on tombe dans l'habitude. Ça recoupe ce que tu disais il y a 5 minutes. On est avec la personne parce qu'il y a une qualité de relation et pas simplement pour rester avec la personne par habitude.
C'est aussi quelque chose qui s'inscrit complètement en faux avec, par exemple, la vision catholique du mariage, où là, on fait vivre le sacrement parce que sacrement, il y a eu. Et justement, quelque part, même si le couple traverse les pires difficultés, c'est quasiment un cadeau de Dieu pour éprouver sa foi, et gna gna gna. Là, on n'est pas du tout là-dedans, au contraire.
Oui, donc c'est ça, c'est l'idée de la souffrance qui est comme un chemin à suivre absolu. Mais moi, je voudrais revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure dans l'idée donc, du patriarcat, du modèle classique où l'homme a sa femme pour lui. Le polyamour a quand même cette envie de dépasser ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi ancré dans le patriarcat qui s'achète un ventre pour une descendance?
Non, absolument.
Hein, on peut confirmer ça. Et que l'idée de l'héritage va passer du fils en fils.
Ça s'est confirmé même, c'est Christine Delphi qui a fait sa thèse là-dessus dans les milieux ruraux, et ça a été également le cas pour ma grand-mère. En fait, les filles qui pourtant sont héritières égales de leurs frères sont poussées à renoncer à leur héritage pour pas morceler les terres et pour que leurs frères aient une part plus grosse. Donc il y a quand même aussi une dépossession volontaire sur la question, effectivement, la transmission du nom, des gènes, des terres, c'est assez net. Pour moi, la question de la grossesse en milieu polyamorie est aussi une question que je me pose, c'est-à-dire que si aujourd'hui je souhaite être enceinte, avec qui je vais faire cet enfant? Est-ce qu'à un moment donné, je prends un risque prophylactique majeur et j'arrête d'utiliser un préservatif avec tout le monde et le sperme le plus conquérant aura mon ventre le premier, avec le suspense que ça peut créer sur la tête de l'enfant à naître et les angoisses de 4 familles sur est-ce qu'on va avoir un petit-fils dans la famille ou pas, sachant que pour un certain nombre de familles, c'est pas vécu, enfin, les gens savent pas exactement dans quel type de... Enfin, mes parents sont au courant, mais d'autres parents ne le sont pas. Et puis, déjà, c'est souvent assez difficile pour un homme de suivre la grossesse de la femme qu'il a mise enceinte. Alors j'imagine, pour quelqu'un dont c'est pas l'enfant à l'intérieur, l'espèce de nœud que ça peut faire, y compris dans la sensualité, dans la sexualité. Et puis, le petit d'homme étant un petit parfaitement immature et qui peut très difficilement se passer de sa mère au début, comment est-ce qu'on peut continuer à être polyamorie dans les premières années, en tout cas les premiers mois
C'est la question très concrète là, que tu amènes, mais c'est vraiment pour moi signe comme ça d'une réflexion qui est ancrée chez toi depuis longtemps, d'une façon de vivre. C'est une question très concrète, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment très riche d'enseignement. Oui, ça remet en cause l'essentiel.
À un moment donné, j'avais une idée de familistère personnel, et donc je me disais, je vais avec mes amoureux louer une maison où chaque homme aura un étage où il habitera avec ses enfants, et je passerai d'un étage à l'autre, en me disant qu'il y avait moyen justement que les enfants et quand même accès à leur demi-frère ou sœur, qu'on puisse s'arranger pour une forme de garde aussi.
Ouais.
Enfin, voilà. L'idée m'est passée depuis, et pour rire comme ça, souvent j'en parle juste pour voir la tête déconfite de l'homme en face de moi. Mais ça reste une question. Est-ce qu'on... jusqu'où on pousse finalement la parentalité, parce que finalement on a aussi découvert qu'on pouvait arrêter d'être un couple amoureux tout en étant des parents qui tiennent le choc. Donc manifestement il y a des gens qui arrivent, donc il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas aussi. De nouveau, pourquoi laisser un enfant seul face à ses parents? Est-ce qu'il ne peut pas justement grandir avec d'autres enfants autour de lui? C'est...
Oui, par exemple, Jacques Attali, dans son livre Amour, nous parle comme ça d'une société à venir où, selon lui, dans 50 ans, on sera tous plus ou moins polyamoureux, avec peut-être la technologie qui pourrait, puisque l'idée de la grossesse, en tout cas la zone où l'enfant est dans le ventre, se rétrécit un petit peu, selon lui, bon, ben là on est dans la science-fiction, mais qu'en fin de compte, on peut détacher d'autant plus la sexualité et la reproduction. Plus on avance dans le temps, et qu'à un moment donné, ça remet aussi en cause des fonctionnements classiques.
Il y a effectivement un pic statistique de naissance prématurée, mais ça n'a rien à voir avec...
Non, mais la fécondation in vitro...
Oui, c'est lié aussi au pic des fécondations in vitro, et puis du coup, les femmes perdent beaucoup moins leurs enfants. C'est-à-dire qu'avant, des prématurés, à 6 mois, 7 mois, les perdait. Il ne faut pas oublier que les femmes mettaient quasiment un enfant sur deux au monde qui n'allait pas vivre au-delà
de... Oui, puis souvent, on choisissait l'enfant aussi, hein. Ça fiffait la mère pendant l'accouchement. Si
c'était un précepte, là aussi, issu de l'Église catholique romaine. C'était un choix qui était fait à ce niveau-là. Et pour revenir à Michel Onfray, il a justement mis au goût du jour toute une liste de citations, et donc il est allé dépoussiérer en montrant un discours de plus en plus misogyne et voire gynophobe. Donc effectivement, au final, sacrifions la mère.
C'est ça.
Ce qui est assez... affolant en termes aussi d'économie, c'est-à-dire qu'on remplace un être complètement immature, on donne la place à un être complètement immature alors qu'on avait quelqu'un dans lequel la société avait investi, qui avait été élevé déjà, qui avait aussi une utilité sociale. Après, il y a la question de la famille que la femme laissait ou pas.
Mais si j'ai compris aussi le voyage de Anne Didron, si je ne me trompe pas, c'est Anne Didron, oui. J'ai un peu un doute sur son nom, qui est parti en Chine, donc j'en parle un peu sur le site, Les Visiteurs de la Nuit. Et j'ai acheté son DVD, et en fait, elle m'avait un peu prévenu que c'était une enquête un petit peu qui n'avait pas vraiment abouti dans l'idée de rencontre d'une société matriarcale en Chine. Mais c'est, puisque c'est la question dont tu te posais un peu.
La tribu des nains.
Oui, je pense que c'est ça, où en fin de compte, les hommes ont un rôle précis, la femme a l'air d'être la stabilité du village, et puis. Ce sont les visiteurs de la nuit, voilà, c'est des hommes qui participent aux tâches de la collectivité, mais ne s'approprient pas une femme, et les enfants ont une sorte d'ancrage par l'identité collective. Et donc quand tu parlais des tâches dans ta maison, là apparemment c'était plutôt la maman qui crée le foyer, et les hommes autour qui vont aller peut-être avec... des sociétés matriarcales, même sans dire que pour moi c'est un modèle où il faut revenir à ça, je pense pas, mais comme on a parlé du patriarcat, c'est quand même intéressant parce qu'on connaît quand même le patriarcat de manière par le vécu de nos sociétés occidentales. On a pour moi pas assez investi les sociétés de type matriarcal, parce qu'on se rend compte aussi, par exemple en termes de survie d'un groupe, c'est des choix qui ont été faits parfois pour mieux résister à la difficulté de la vie en général dans la nature. Par exemple, les sociétés où il y avait plusieurs hommes autour d'une seule femme étaient des sociétés qui avaient des meilleures récoltes, qui pouvaient mieux survivre aux besoins, par exemple, simplement parce qu'ils étaient plusieurs à labourer, évidemment. Mais donc, est-ce que dans tout ce petit débat là qu'on est en train de mener là-dessus, est-ce que ça reste intéressant pour toi de réfléchir à ça, d'aller peut-être creuser encore un peu? Rencontrer des femmes vraiment qui vivent comme ça, ou est-ce qu'on se dit, mais dans le fond, on fait du patriarcat à l'envers, il faut peut-être table rase et plutôt essayer de réfléchir autrement.
Au niveau des sociétés matriarcales, il en existe tout un tas très différents, hein, de même que le patriarcat, des variations. Je pensais aussi à celles qui existent sur l'île de Bali, où là, finalement, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que plusieurs hommes sur une femme font moins au niveau de la pression démographique sur l'île et des ressources disponibles, donc font moins d'enfants que l'inverse, et je pense que c'est un choix qui a été fait aussi pour ça. Chez les Nans, ces visiteurs du soir, ils sont successifs, n'est pas simultané, donc aussi ça change la donne. Et dans mon idée, c'était aussi de ne pas priver les pères de leur paternité. C'est-à-dire que dans la société des Nans, il y a des présomptions, puisque a priori la mère couchait avec celui-là à ce moment-là. Mais on en revient par contre à la notion de propriété. Effectivement, le père n'est pas propriétaire, enfin le géniteur n'est pas propriétaire de ses enfants. Je ne sais pas si c'est mon éducation d'historienne puis d'archiviste, mais je suis assez peu pour faire table rase, notamment parce que je pense que de toute façon on a une mémoire des choses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et j'aurais plutôt tendance à proposer d'aller vers plus d'écologie. C'est-à-dire que je peux aussi très bien comprendre qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts. Donc je ne vais pas non plus imposer mes idées au monde. Cela dit, je trouve que il y a quand même beaucoup de gens qui de plus en plus finissent par entendre ce mot polyamourie, et finalement ça fait sens, sans que eux-mêmes n'envisagent directement de changer leur pratique, nous regardent faire. Nous regardent évoluer, s'aperçoivent que finalement la relation marche. Et finalement, en soi, on est des espèces de publicités vivantes autour de nous-mêmes pour ça. C'est vrai que moi, j'ai très envie d'inviter les gens à passer au troisième millénaire, y compris dans leur vie privée. Mais bon, j'ai aussi passé un certain nombre de temps en thérapie. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de peurs archaïques, de traumatismes divers et variés, auxquels on fait plus ou moins face, et le lâcher prise sur l'autre implique aussi un lâcher prise sur soi, et que peut-être beaucoup de gens qui sont dans le contrôle pour maintenir leur peur à un niveau raisonnable sont pas en capacité de faire.
La fameuse peur de l'abandon, quelque chose comme ça. Qui est peut-être un réflexe comme ça de s'approprier.
Le texte sur la jalousie qui est sur le site est assez bien fait. Et puis surtout le fameux polyamorie mode d'emploi, que je trouve vraiment très très bien fait, mais aussi vraiment accessible et pour tout le monde finalement. Ouais. Je pense qu'il y a des questions là-dedans. Ne pas mentir sur ce que je suis, pas mentir sur le fait que je suis polyamorie, mais il y a aussi, à mon avis, plein de gens qui se mentent sur le fait qu'ils sont... peut-être pas hétérosexuel. Je crois que c'est pas du tout exclu. Quand on voit combien certains hommes délaissent complètement leur famille et leur femme pour se consacrer exclusivement à leurs potes, ou cette espèce d'homosensualité des vestiaires, on se dit qu'il y a sans doute quelque chose qui passe là. Et puis il y a aussi, finalement, chez les hommes... tout ce qui est de l'ordre de la sexualité anale est directement lié au viol et à la souffrance. Je connais même un homme qui pensait que même la personne qui pénétrait avait mal. Et je me dis qu'il y a aussi là des impératifs, des peurs, des espèces de traumatismes acquis et hérités qui se transmettent de génération en garçon, génération en garçon. C'était aussi assez... les homosexuels sont violés en prison parce qu'ils sont homosexuels, et donc soi-disant ils aiment tout, alors que bon, il y a quand même la question du choix, ça reste des individus qui s'entendent mieux avec l'une ou l'autre personne. sans parler de l'horreur que vivent les travestis, notamment les travestis en femmes qui sont quand même enfermées parmi les hommes. Mais l'homme qui viole reste toujours un homme hétérosexuel, caïd, fier, viril et machin, alors qu'il s'est quand même livré à un acte homosexuel indéniable. C'est quand même des espèces de constructions intellectuelles comme ça, de « non, non, moi ça va très bien, c'est l'autre là ». Et je pense que dans la déconstruction aussi de dire vraiment quels sont mes besoins et qui je suis, auxquels on est invité dans le polyamorie, puisque finalement, quand on est en souffrance sur la même chose avec des partenaires qui sont différents, c'est que quelque part la souffrance elle est vraiment chez soi, donc ça aussi invite à un travail sur soi-même, effectivement, qui je suis vraiment et quelles peurs me construisent, et quel plaisir aussi, et c'est en espérant qu'il y en a. Il y a oui, aussi la question de l'honnêteté envers l'autre et envers soi-même. Sur ses choix, donc pas seulement la monogamie, mais aussi est-ce que je suis hétéro tendance bi, ou est-ce que je suis bi tendance hétéro, enfin, ou est-ce que je suis ni l'un ni l'autre, enfin, c'est...
Plaisir des utopies, fin de la première partie.